les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une lame de fond, un mouvement mondial qui n'épargne personne et balaie tout sur son passage, y compris devant sa porte. C'est une révolution, au certain, un moment irréversible de réappropriation de soi et de son corps, dit une historienne interrogée par Zineb Drieff dans M. Le Monde. Weinstein, MeToo, balance ton porc, la vague est si puissante que toutes ces briseuses de silence, célèbres ou anonymes, victimes devenues courageuses, ont été consacrées, vous le savez, personnalité de l'année par le magazine Time. Et ce n'est pas fini. Même en Iran, le hashtag MeToo est en train de faire des ravages sous le nom de Manam. Et en Suède, une loi sur le consentement sexuel sera votée en juillet. Elle interdira notamment d'avoir une relation sexuelle avec une personne qui n'a pas expressément dit oui ou montré activement qu'elle veut cette relation. Pendant ce temps, quelques rares femmes ou personnalités s'obstinent discrètement à alerter sur les risques qui pourraient découler de ces événements sans précédent. L'enfermement des femmes dans leur victimisation agressive, la moralisation excessive, l'esprit de délation. Au micro de Radio-Canada, l'écrivain et critique Catherine Millet, par exemple, estime que les réactions aux campagnes destinées à briser le silence conduisent à des réactions extrêmement puritaines. Les vagues de dénonciation prouvent, dit-elle, que les femmes ont peur de la sexualité. Si on n'a pas peur de son corps et de la sexualité qui est rattachée, dit Catherine Millet, on ne considère pas qu'une caresse insistante puisse être une offense. On écarte la main qui nous gêne et on passe à autre chose. Une parole à peine audible aujourd'hui, il faut bien le dire. Dans les histoires que je vous propose d'écouter et qui sont antérieures au mouvement récent, je le précise, la méfiance à l'égard de la sexualité, la peur même, sont clairement dites. La façon de les surmonter et d'appréhender la sexualité est peut-être, vous l'entendrez, une réponse à la lame de fond des MeToo, mais est-ce la bonne? François, Paul, Inès et Claire seraient des précurseurs. Ils participent en tout cas à des ateliers de discussion dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne, regroupés sous le nom de Waouh et très inspirés par la parole chrétienne. Ce jour-là, le thème c'est l'amour humain dans le plan divin. Et c'est un reportage d'actualité signé Alain Lefkovitch dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle François, je travaille dans la tech, en start-up, et je me suis marié il y a 7 mois. Je me suis marié juste avant mes 26 ans, donc j'ai dit tiens, je me suis marié à 25 ans. Camille, elle avait 24 ans. Avec Camille, on a pris la décision d'attendre d'être marié pour s'unir sexuellement. Et mon grand désir de jeunesse, ça a été de pouvoir m'unir à ma femme comme la première femme. Donc de garder ma virginité pour ma femme pendant toute ma jeunesse. Donc d'abord, je dirais qu'il y a la dimension cadeau de pouvoir. Je voulais offrir ça à la femme avec qui je m'engagerais pour ma vie. Donc lui offrir ma vie, mais aussi ma sexualité et de pouvoir lui dire. Et ça, c'était un défi pour lui dire tu es la première. Et c'est un cadeau qu'elle m'a fait aussi. Quand j'en parle à des copains qui n'ont pas fait ce choix-là. Elle dit j'ai désiré Camille pendant ce temps de fiançailles, comme peu de gens désirent leur femme ou leur future femme. Et ce désir-là, il était unique et c'était une époque, ok. Mais et je pense qu'il va me faire vibrer toute ma vie. Avant Camille, j'ai essayé de me tenir à distance, des filles avec qui j'ai eu des histoires amoureuses. J'ai eu des premières histoires amoureuses dès le lycée, comme tout le monde. Ça a été un défi, hein. Ça n'a pas été un chemin droit et facile. Je veux pas vous arriver avec un idéal puritain et vous dire tout s'est passé comme je l'avais prévu. Je pense qu'il y a des choses très pratiques à mettre en place qui rendent la tâche très facile. On essaie d'éviter de se retrouver nu dans un lit avant de se poser la question. Ah non, on a dit qu'on faisait pas l'amour, alors voilà. Par exemple, si je te raccompagne chez toi le soir, après un resto ou même une fête, voilà, je me fixe moi-même ma limite, et donc ça pourrait être ton paillasson ou ton salon, par exemple, je veux pas rentrer dans ta chambre. Mais en effet, il y a des choses très pratiques à mettre en place, et c'est ça qui est compliqué. Mais finalement, si on tient en place ces choses pratiques, eh bien, ça rend la tâche vraiment simple. Et c'est un entraînement à la fidélité, parce que dans 30 ans, s'il y a une collègue du bureau avec qui on a un peu picolé, on s'entend hyper bien, et puis qu'est-ce qu'elle est sympa, et elle me comprend, alors qu'en ce moment c'est difficile avec ma femme, voilà, par exemple, eh bien, il faudra que j'ai cette même rigueur du paillasson, par exemple. J'ai un exemple un peu bête, mais en effet, c'est quelque chose qui construit la confiance. Je sais que Camille sera rigoureuse avec un collègue de boulot, peut-être dans 30 ans, et on va vibrer de cette confiance-là toute notre vie. Après, je suis pas en train de voilà, qui fait l'ange fait la bête, et je ne suis pas un ange, et il m'est arrivé de dévier de mon idéal, oui. Par exemple, en posant des gestes déplacés avec une fille avec qui je pouvais avoir une relation qui était authentique, certes, mais qui perdait en vérité, puisque a priori, si on était amoureux, c'est que elle savait que moi je voulais attendre, et probablement qu'elle aussi voulait attendre. Donc on se ment un peu à nous-mêmes, il y a un côté infidélité, oui. Mais je crois pas que c'est parce qu'on a été infidèle une fois qu'on peut pas se rattraper, qu'on peut pas se pardonner. C'est comme quelqu'un qui se prépare à faire Iron Man ou un marathon. Il se fixe de courir un semi par semaine, un semi-marathon. Eh bien, voilà, c'est parce qu'il le fait pas cette semaine-là qu'il va pas le courir son Ironman. En tout cas, j'ai pas l'impression d'être à contre-courant de la société, parce que les années 70 nous ont proposé la liberté, et moi c'est librement que je fais ce choix, donc je suis pas tellement à contre-courant en fait. Depuis le collège, on nous bassine, on nous fait peur avec la question de la performance. Et ça, pour un mec, c'est dur. Au collège, là, on commence à vivre sa puberté. On se dit, mais est-ce que je serai performant? Est-ce que j'arriverai à faire plaisir à ma femme plus tard, etc. Et puis on nous bassine avec ça, quoi. Quelle horreur. Et bien, en fait, la télé, les médias, moi, m'ont un peu dégoûté du sexe. On me disait, mais en fait, c'est nul. Et tous les journaux féminins, les magazines et tout, qui expliquent que c'est très difficile d'avoir un orgasme, etc. Et là, les jeunes sont dans une détresse, je crois, hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, en partie, que le porno a autant de succès. Parce que les jeunes ont peur de ne pas savoir faire. Donc, j'ai appris à ne pas du tout avoir peur de cette première fois, comme le cinéma nous apprend à en avoir peur. American Pie et toutes ces conneries. C'est vrai, la détresse du mec au lycée qui, 40 ans encore puceau, tout ça, qui vraiment nous font peur, quoi. Qui veulent faire peur, voire humilier ceux qui voudraient et qui n'y arrivent pas. Peut-être encore pire. Donc il a fallu en effet apprendre à se découvrir. C'est pas grave, c'est beau, c'est magnifique en fait. On apprend à marcher ensemble, c'est une nouvelle activité. Il y a peu de choses qu'on apprend, des choses qu'on ne sait pas faire du tout à 25 ans. Et donc on a appris ça ensemble, on apprend ça ensemble, on découvre nos corps. Il y a tellement à découvrir. On n'est pas blasé du tout, au contraire du coup. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouvel art, ou je sais pas, un nouveau sport, ou une nouvelle activité. Et d'être débutant en effet. Pas débutant dans l'amour du tout, et on se découvre ensemble comme ça, et là du coup c'est plus du tout l'exemple d'Iron Man, au contraire quoi, pas besoin de s'entraîner avant, puis comme c'est pas sur un one shot, encore, mais peut-être que dans le cas de quelqu'un qui n'a pas la fidélité comme objectif, pour le coup, là, le coup d'un soir, là il y a une pression de performance, parce que ce sera le coup d'un soir, il n'y en aura pas deux avec cette personne, et là on a un truc de performance. Avec Camille, c'est toute ma vie sexuelle que je vais partager. Et ensuite, bon voilà, l'union sexuelle prend une place très importante, mais en même temps prend une place juste. Je veux dire, il faut ajuster cette place-là. On n'est pas en train de se bouffer l'un l'autre du matin au soir. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à vivre, des aventures immenses, quoi, dont le sexe fera partie, ce sera une partie, ouais.
Je m'appelle Inès, j'ai 28 ans. Je travaille depuis quelques années. Donc, à l'âge de 12 ans, je suis tombée par hasard sur des magazines pornographiques dans la chambre de mes parents, avec quelques jouets un peu sexuels. Et donc, c'était un âge où on est complètement innocent. Et moi, ça m'a à la fois émoustillée, un peu choquée, un peu perturbée. Et donc, mon imaginaire a complètement s'est emballé. Et j'ai commencé à cet âge-là, où j'étais encore une enfant avec un corps de femme, à connaître mon corps, à le découvrir. Et en fait, maintenant, 16 ans après, je me rends compte que cette découverte n'était pas du tout appropriée à cet âge-là et que ça a un peu pollué tout le reste de ma vie jusqu'à maintenant, en fait. Parce que donc après, j'ai continué à grandir normalement, mais quand j'ai commencé à rencontrer des garçons, à m'intéresser à l'autre sexe, je pense qu'inconsciemment, cet imaginaire était toujours présent. Et ce qui fait que je me suis jamais posé la question des relations sexuelles. Pour moi, c'était quelque chose d'évident. Dans le monde, on nous dit, c'est bien de faire l'amour avec son copain, d'avoir des relations avec son copain. Et du coup, je me suis pas posé la question de pourquoi je le faisais et quelle importance ça pouvait avoir dans la vie d'une personne, en fait. Et du coup, ma première relation avec mon copain, j'avais 18 ans. Et au bout de quelques mois, il me dit, Inès, je n'ai plus de sentiments pour toi, on va arrêter. Et en fait, c'est là où j'ai compris, enfin, j'ai vécu cette souffrance, cette douleur d'être abandonnée un peu comme une chaussette. Et c'est là où j'ai un peu commencé à vivre une période d'autodestruction qui a duré bien 2-3 ans. Où, en arrivant en école de commerce, j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes repères. Et du coup, j'ai commencé à essayer de remplir un vide que j'avais en moi, en utilisant les autres et en me laissant utiliser, en fait. Donc du coup, je sortais, je buvais, j'embrassais les garçons, j'avais des relations avec les garçons. Et c'était un cercle vicieux, parce que plus je faisais ça, plus je me sentais mal. Et plus je me sentais mal, plus j'avais besoin de ça pour vivre. J'avais besoin de quelqu'un dans ma vie, j'étais vide, j'avais besoin qu'on me remplisse affectivement. Et du coup, j'arrivais pas à être seule, j'avais besoin de quelqu'un. Jusqu'au jour où j'étais en Espagne et j'ai eu un déclic, j'ai eu un sursaut. Je suis partie en courant, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et en me disant, mais Inès, dans quoi est-ce que tu t'embarques? C'est vraiment, t'es au fond du trou, il faut que t'arrêtes. Et je savais qu'en sortant, j'allais continuer, donc j'ai arrêté de sortir totalement pendant 6 mois. Donc j'étais vraiment métro, boulot, dodo. Mais j'avais beau avoir décidé de prendre du temps pour être seule et ne pas avoir de copains ni rien, j'arrivais pas à me débarrasser de ces images de pornographie que j'avais dans la tête. Et du coup, je continuais à les regarder par moi-même. C'était une fascination morbide, en fait. Et malgré le fait que je sentais que ça ne me faisait pas de bien, c'était un peu une addiction. Jusqu'au jour où donc ma dernière relation d'il y a 4 ans, qui s'est très mal terminée, parce que mon ex m'a trompée avec quelqu'un d'autre, me l'a même pas dit, je l'ai appris par elle, elle m'a appelée, m'a envoyé des photos, etc. J'avais essayé de me reconstruire sur une base très instable, et avec cette rupture, ça a été l'effondrement complet de la base, enfin j'étais vraiment au fond du trou. Petit à petit, je me suis dit, alors moi je voudrais attendre le mariage pour pouvoir faire l'amour une nouvelle fois avec quelqu'un d'autre, et que ce soit la dernière personne avec qui je ferai l'amour, ce sera mon mari. Je ne pouvais plus donner mon corps à quelqu'un si c'était pas dans le cadre d'un engagement concret et définitif. Parce que je l'ai trop donné, et c'est tellement blessant, même sans avoir vécu le parcours que j'ai vécu, ne serait-ce qu'avoir une rupture amoureuse, c'est toujours très blessant, parce qu'on a donné son corps à quelqu'un d'autre, et finalement, cette personne nous dit, je n'en veux plus, je te laisse. Ou alors l'inverse, je veux plus de toi, je te laisse. Et du coup, le fait c'est aussi une préservation de soi-même, c'est se dire, je suis une merveille, mon corps est important, je ne suis pas que mon esprit, je suis aussi mon corps. Et je veux que mon corps soit respecté pour ce qu'il est, et donc ne décider que de le donner à quelqu'un qui m'aura respecté en ayant pris l'engagement d'être avec moi jusqu'à sa mort. Au niveau relationnel, c'est vrai que du coup, par mon parcours, je sens que je suis fragile, donc c'est toujours un combat. Et depuis, du coup, depuis 4 ans, j'essaye sans cesse de changer mon cœur, en fait. C'est même pas une question de religion, c'est vraiment pour moi... c'est peut-être d'être dans le don et pas dans l'utilisation de l'autre, en fait. On pourrait dire que dans mon histoire, effectivement, il y a une part de sevrage, parce que oui, je sais que j'ai une faiblesse au niveau de la sexualité. Après, en ce qui me concerne, moi, je ne vois pas ça que comme un sevrage. Je vois vraiment ça comme une manière de changer mon regard sur les autres. Et effectivement, oui, bien sûr, la masturbation, ça fait partie de ce sevrage-là. Ça nous manque. Enfin, 4 ans d'abstinence, c'est long. Mais je me rends compte qu'en fait, en arrêtant et en me disant que c'est un sacrifice que je fais pour un plus grand bien, que c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est pas comme arrêter de fumer, bon, parce que j'ai arrêté récemment. C'est vraiment aussi transformer mon cœur pour pouvoir le donner bien mieux aux autres. Même pas forcément dans une relation amoureuse, dans tout, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle avec mes parents. C'est vraiment un changement du cœur. Du coup, je suis en train de travailler sur moi-même. Je prends le temps de me connaître, de savoir ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux construire comme mariage plus tard. Donc c'est un sacrifice que je fais, hein, parce que je pourrais très bien choisir de renier mes valeurs, bien sûr. Mais bon, du coup, est-ce que j'arriverai encore à me regarder dans la glace? C'est une autre histoire. Pendant plusieurs années, de ne pas en avoir de relations sexuelles pendant plusieurs années, ça apprend justement la beauté de ce que c'est, en fait. Je me suis dit que si tu vis pas ensemble et que tu n'as pas de relation sexuelle avant de se marier, ne serait-ce qu'à la mairie, c'est déjà beaucoup plus facile de se désengager d'une relation, en fait. De prendre du recul, de se dire, bah voilà, cette personne ne m'apporte rien de bon, je ne lui apporte rien de bon, on se rendra jamais heureux l'un l'autre, à quoi bon continuer cette relation. J'ai déjà eu cette conversation-là avec quelqu'un qui me plaisait, où je lui disais que moi, j'étais du coup plutôt dans l'optique de connaître la personne, apprendre à passer du temps avec elle, etc., et que je ne voulais pas avoir de relation avant le mariage. Et lui m'a dit, alors moi, non, par contre, c'est complètement le contraire. Moi, je veux connaître la personne dans tous ses niveaux avant de pouvoir m'engager plus. Et du coup, en fait, on était un peu dans un dialogue de sourds. Il comprenait pas ma position et moi, je lui disais, mais ta position... Enfin, j'essaie de lui montrer par mon témoignage que sa position n'était pas forcément la plus appropriée, ne serait-ce que pour lui-même, en fait, pour se respecter lui-même. Mais quand les personnes ne sont pas capables d'entendre ce qu'on leur dit, ça sert à rien de discuter plus, en fait. Et du coup, on se connaissait pas très bien, et après on a arrêté de se voir, parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était pas quelqu'un qui m'attirait tant que ça.
Eh bien, je m'appelle Paul et puis je suis ingénieur en informatique. J'habite à Bordeaux et j'ai 27 ans. Alors, je suis avec ma future épouse depuis 2 ans. Nous avons eu des relations sexuelles et ensuite on a décidé il y a quelques années avant de nous marier de ralentir et puis finalement d'arrêter nos relations sexuelles. On s'est rendu compte que notre relation tenait pas debout, manquait de profondeur. On s'est dit, ah, il y a peut-être un problème. Et c'est là qu'on a pris du recul et qu'on a dit, ah, en fait, peut-être que la relation sexuelle, ça entache, ça cache ce dont on a besoin pour faire grandir notre couple et avoir un couple solide. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai envie d'avoir un couple. J'ai pas envie de divorcer ou de me retrouver avec des mauvaises. Et de me retrouver avec des galères ou même des enfants qui sont séparés et tout. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une vie heureuse et c'est là qu'on a dit, pour mettre le plus de chances de notre côté, pourquoi pas essayer en fait cette solution. Et on s'est rendu compte qu'en effet, déjà on redécouvrait énormément de choses dans nos gestes. On se rendait compte qu'en fait, les gestes qu'on posait étaient des gestes vrais. C'est-à-dire que c'était vrai en actes et en pensée. Nos actes correspondaient à nos pensées. Et en effet, quand tu prends la main de quelqu'un, quand tu embrasses quelqu'un, ça veut dire des choses. Et ces choses-là ont pris un vrai sens dans notre couple. Alors oui, sur le moment, c'est sûr, c'est génial. On a passé un temps fou entre guillemets, on a eu beaucoup de plaisir, on s'est donné beaucoup de plaisir. Mais au final, est-ce que ça a fait grandir notre couple? Non. Est-ce que ça nous a fait avancer dans notre projet de vie ou dans ce qu'on voulait construire? Non, en fait. Alors c'est bien pour le coup d'un soir, ouais. Mais après, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça te fait grandir? Pas vraiment, au final. ça, on s'est rendu compte bah, que non, ça ne nous apportait pas tout ce qu'on souhaitait. Alors non, on n'était pas des bêtes de sexe, mais le sexe nous voilait un peu une partie de la vérité. Et souvent, c'est ce genre de partie qu'on ne souhaite pas forcément montrer et qu'on peut facilement cacher sous justement des relations sexuelles, etc. Par exemple, moi, j'ai parlé avec ma fiancée de ce que moi, j'ai vécu à travers la pornographie, par exemple. Alors après, c'est selon les personnes. Moi, en fait, la pornographie m'avait chosifié en fait la femme. Donc au final, ouais, moi, c'est un peu ça ce que j'ai pu partager avec elle et puis en parler en fait. Le fait d'en parler et d'en parler en toute confiance, parce que je sais qu'elle allait pas me juger. Je sais que elle allait accepter ça et donc le fait d'avoir cette confiance, le fait de pouvoir en parler, bah ça aide énormément à prendre du recul justement sur ce que je vis et à dire en fait qu'est-ce que je fais là? Oh là, on va se calmer peut-être.
Ça veut dire que vous faites lit chambre à part?
Avec ma fiancée, au début, on dormait forcément dans le même lit. En effet, ensuite, comme conséquence, on a décidé tout simplement d'éviter d'avoir des relations sexuelles. Ça serait quand même assez horrible, en fait, de se laisser tenter par l'autre alors qu'il est juste à côté de soi. Soit on prend un peu des distances et on se décide peut-être de dormir dans deux matelas différents, peut-être juste ça, tu vois, séparé de 10 cm. Ça change pas mal de choses et ça permet justement d'éviter d'avoir ces pulsions, entre guillemets, avoir des pulsions alors qu'on a décidé justement de pas avoir de relation. Dans ce cas-là, ça serait une vraie torture en fait d'encourager ces pulsions. Donc, en effet, on prend un peu de recul. Après, c'est pas pour ça qu'on se fait pas des câlins le soir et qu'on n'a pas des tonnes et des tonnes de gestes de tendresse l'un envers l'autre. C'est juste qu'on a décidé ensuite de se limiter dans nos relations sexuelles.
Je m'appelle Claire, j'ai 25 ans et je suis en apprentissage en tapisserie d'ameublement. Je n'ai pas toujours été abstinente. J'ai eu quelques petits copains, mais je pense que je ne fais pas partie des personnes qui en ont eu par-dessus la tête, à ne savoir qu'en faire. Et à chaque fois que j'avais un petit copain, je me projetais avec lui. Je ne pouvais pas avoir dans la tête d'être avec quelqu'un juste pour être avec cette personne. J'imaginais au moins un projet avec lui. Et dès lors où je me disais que c'était plus possible, alors l'histoire entre nous n'était plus possible. Premier petit copain, c'était en cinquième, qui me prenait fort dans ses bras et qui a voulu m'embrasser. Et je l'ai un peu repoussé avec ma main, mais visiblement, c'était pas assez... C'était pas assez expressif, quoi. Et donc, c'est un premier baiser volé. Alors, baiser volé, ça paraît charmant, mais dans ce contexte-là, c'est pas charmant du tout parce que c'est un baiser volé là. Et plus tard, c'est d'autres gestes qui vont être posés sur moi et d'autres choses qui vont m'être prises par mes petits copains. Et dans ma relation au garçon, j'ai plusieurs fois essayé de dire non, de dire stop, mais ça a été des mots qui n'ont pas été entendus. Je me suis pas sentie aimée à ces moments-là. Et ça, je m'en rends compte avec du recul. J'ai le sentiment de prendre soin de moi quand je fais ce choix-là. Et l'abstinence, c'est une décision que je ne qualifierais pas de difficile. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'attendre quelqu'un à qui je dirais un oui avec toute ma personne. En vérité, avec moi-même et en vérité avec cet homme. Alors, je ne sais pas si je dirais le sexe. Je parlerai de sexualité, je dirais que la sexualité est bonne. Le désir est bon et ce qu'il suscite est bon. La question, c'est dans quelle mesure j'ai une sexualité, pourquoi j'ai une sexualité, quel est l'intérêt que je porte en vivant une sexualité, quelle est mon intention et qu'est-ce que je fais de mon corps, qu'est-ce que je fais du corps de l'autre dans cette sexualité. Donc oui, la sexualité, c'est bon, parce que ça donne la vie, on se sent vivant, c'est essentiel à la vie. Mais la question, c'est dans quelle mesure je vis ma sexualité. Il y a beaucoup de tentations. Ça demande de la volonté, parce qu'on peut très vite, on pourrait très vite se laisser aller, en fait, prendre, je veux dire, c'est pas désagréable, hein, d'avoir un câlin, de s'embrasser, de se sentir aimé, de se sentir exister, de se sentir fragile dans les bras d'un homme, c'est pas désagréable, et c'est même très agréable. Donc moi, ça me demande beaucoup de volonté, et ça me demande d'avoir une vie unie, d'être cohérente avec moi-même à chaque instant. Et quand la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a une attirance, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a cette attirance, je me pose la question dans ma tête. Est-ce que j'ai envie de me donner à lui? Et est-ce que je suis prête à m'engager avec lui? Est-ce que je peux le projeter comme la personne avec qui je vais me lever tous les matins? Est-ce que je peux le projeter comme le père de mes enfants? Parce que le sentiment amoureux, ça ne dure pas l'éternité. L'amour, après, c'est dans les actes, c'est dans la volonté. Donc, est-ce que je suis prête à aimer cet homme ou non? Et quand je me rends compte que ça n'est pas possible, je dis, ben, je suis heureuse de te connaître, tu es très beau, mais vu l'ambiguïté qu'il y a entre nous deux, je pense que c'est pas juste de continuer comme ça, parce que ce serait jouer avec toi, en fait, parce que je me sens aimée de toi, donc je suis bien avec toi, évidemment, mais en même temps, je te laisse une espérance qui n'a pas lieu d'être, parce que je n'attends rien de plus de toi qu'une amitié. Alors, mais mon entourage, ma famille, mes proches et certains collègues, donc dans leur réaction, il y en a qui sont assez admiratifs, il y en a qui ne comprennent pas, d'autres qui trouvent que c'est stupide. Et il y a des personnes que ça encourage aussi, qui se disent « Ah oui, c'est possible », et en fait, si elle a tellement cette volonté, cette persévérance là-dedans, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et mon témoignage, qui est assez simple, mais qui est, malgré tout, interroge les gens, et c'est ça que j'ai envie de susciter, en fait, l'interrogation « Et pourquoi ?» Pourquoi Claire a envie de vivre ça? Et pourquoi c'est si important pour elle?
I have loved in my life as a child. Cried and loved too soon.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Les Abstinents, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Cécile Lafont. Merci à François, à Paul, à Inès, à Claire et à Marie-Gabrielle, ainsi qu'au forum de discussion. Waouh, c'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux.
In the sun.